Sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré. Alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement.
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Bonjour, good morning, guten tag, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le mardi 9 mai 2023. Il sont 11h, passé légèrement de quelques instants. Et nous sommes heureux de nous retrouver dans ce studio et de nous retrouver également connectés à vous sur Canal FM à Lomé ici, mais également sur les médias partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé. Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan, mais également Radio Le Bénin et d'autres médias et autres canaux numériques qui transportent le club de la presse jusqu'auprès de chez vous. À la réalisation technique, Thomas Datevi et Gérard Kodjo Akucha. Nous parlons aujourd'hui naturellement culture, c'est mardi, mais la culture que nous déclinons plutôt en enseignement supérieur, que se passe dans les centres et écoles d'enseignement supérieur, notamment privés au Togo, comment est-ce que le gouvernement veut corriger la chose, c'est notre page culturelle, académique et universitaire. Et puis nous allons parler recensement. Tel que le Conseil des ministres en a parlé hier, la fin du recensement dans la première partie, dans la zone 1, mais également les Togolais de la diaspora qui ont été recensés entre mars et juin 2022. Qu'est-ce qu'il en est? Nous allons en parler tout comme revisiter l'agenda des députés à l'Assemblée nationale qui sont assez occupés actuellement et revisiter également le partenariat, la collaboration entre le gouvernement du Togo et les ONG. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que le gouvernement veut réformer et quelles sont les réactions des ONG? Pour débattre de tout cela, Monchoso Dieudonné Korlakna de Togo Matin, bonjour.
Très cher Sas, bonjour, bonjour auditeurs de Radio Canal FM. Je ne vais pas dévoiler les noms, mais chers confrères, bonjour et bienvenue.
Chers confrères, dont Isidore Sassou Atialo Akolor du Actu Express, qui commence à laisser paraître une petite barbe de petit vieux. Bonjour Isidore.
Bonjour Sas, je voulais t'imiter.
En tout cas, ça me passe bien.
Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux confrères ici présents au plateau.
Merci. Et puis Eric Hugues Pakujo Johnson du journal L'Union, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour Isidore, bonjour Dieudonné et bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Merci. Avant d'entamer les débats, la pensée du jour, et nous choisissons aujourd'hui de ressortir la phrase que nous avons partagée le vendredi dernier, qui émane de Pierre Desproges, qui a écrit, citation, « Tous les hommes naissent libres et égaux et en droit. » Qu'on me pardonne, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire sans rire. Encore une fois, Pierre Desproges qui écrit que « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. » Qu'on me pardonne, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire sans rire. Au fil de l'émission, surtout à la fin, chacun pourra faire la conclusion. Si nous sommes, si nous naissons vraiment libres et égaux, dans tous les droits, chacun nous fera parvenir son opinion sur la chose. Mais Isida, Eric et Montchosson, rebonjour à vous. Chapitre numéro 1, les réalités de l'enseignement supérieur au Togo, notamment ce qui se passe dans les écoles, dans les instituts, dans les centres de formation supérieure. Le médium paru aujourd'hui écrit, c'est bien le médium à la page 5 qui écrit aujourd'hui, rapport d'évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur. C'est un rapport que, une étude que le gouvernement a commandité, le rapport a été rendu public, c'est ce que le confrère, le médium annonce, pendant que autre journal, c'est l'audience qui nous donne un aspect de ce rapport avec ce titre, enseignement supérieur privé au Togo, constat amer. 37 sur 47 établissements privés délivrent des diplômes non reconnus par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Et le journal se demande comment assainir ce secteur. L'Union également en parle à la page 3 qui écrit « Calendrier de l'harmonisation des offres dans l'enseignement supérieur, 3 ans pour l'assimilation, puis des examens nationaux. » C'est également le sujet phare du confrère Togo Matin paru hier. Montchosson, ton journal écrivait justement « Enseignement supérieur, la qualité de la formation dans le privé préoccupe les autorités ». Et l'article continue avec le constat et les propositions des réformes que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est en train de vouloir mettre en œuvre. Mais Eric, un petit aperçu d'abord de l'enseignement supérieur au vu justement de ce rapport qui vient d'être rendu public par le gouvernement.
Oui, en fait, il y a dans ce rapport justement des chiffres qui ont été établis pour parler de 350 filières qui sont enseignées dans 74 écoles pour près de 25 000 étudiants.
Dans le supérieur privé.
Dans le supérieur privé. Alors, de quoi s'agit-il? En réalité, il s'agit d'un problème d'harmonisation des diplômes que ces établissements-là délivrent aux étudiants. Il faut reconnaître que le ministre Iou de l'enseignement supérieur avait déjà tiré la sonnette d'alarme depuis il y a 2 ans. Et au vu de tout ça, il a demandé la suspension des cours dans toutes les universités supérieures privées au Togo. Et là, les détenteurs de ces universités ont réagi en disant non, nous ne sommes pas contre l'harmonisation, tout simplement, il y a un problème de timing. Vous ne pouvez pas nous demander d'arrêter l'enseignement, nous conformer aux dispositions en vigueur avant de reprendre les cours. Parce que en réalité, ces universités-là comblent un vide que l'État ne peut pas supporter en ce moment. Parce que nos deux universités publiques sont déjà pleines, il faut le reconnaître. Et donc, si on arrêtait l'enseignement dans ces universités-là, les enfants, les étudiants, que deviendraient-ils? Voilà la question qui taraude un peu le corps des enseignants ou des fondateurs de ces universités-là qui ont réagi quand même. Et je crois que actuellement, ce qui est important, c'est que l'on aille à des discussions, que les coûts continuent pendant que les gens se conforment aux au règlements en vigueur dans notre pays.
Alors justement, l'étude, hein, cette étude a été menée. Un aspect que dévoile, enfin, que nous rappelle le confrère l'audience, c'est que 37 sur 47 établissements privés supérieurs délivrent des diplômes qui ne sont pas reconnus par le CAMES. Alors, quand on imagine un peu ce que coûte la formation dans ces écoles supérieures privées, et au bout de 2-3 ans, et le parent et l'étudiant, l'étudiante se rendent compte que ce n'est qu'un parchemin qu'il a entre les mains, que ce n'est pas un diplôme qui n'est pas reconnu, ça doit faire extrêmement mal. Mais mon Tchosso, ce n'est pas le seul constat établi par ce rapport.
Non, mais il n'y a même pas besoin de consulter ce rapport pour
se rendre à l'évidence
qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement supérieur dans notre pays. Le problème ne date pas d'aujourd'hui, en réalité, mais rappelons-nous, il y a plusieurs années, deux ans, si je ne me trompe, avec beaucoup de tambours, avec tambours battants, le sujet a été posé. Et si je ne me trompe, c'était au temps où le ministre Broum était le ministre de l'enseignement supérieur. C'est un problème qui a été déjà la question même des universités privées qui sont conformes avec la règle se pose au Togo. Avant de parler même de l'homologation des diplômes ou de la reconnaissance des diplômes par les instances du CAMES, il faut déjà poser le problème même des écoles officiellement reconnues. Le problème était toujours posé, le problème était toujours évoqué, mais on se demande en vérité, mais comment est-ce que... Mais encore une fois, il faut quand même avoir le courage de dire, l'État s'éveille à un moment donné, mais l'État a trop laissé le terrain justement occupé.
Nombre de ces écoles supérieures sont officiellement reconnues par l'État.
Non.
C'est ça, non?
Ah non. La question depuis le ministre Broum.
Oui.
Rappelez-vous, à un moment donné, le ministre Broum a tapé du poing sur la table et a demandé justement que toutes les écoles d'enseignement supérieur se mettent aux normes. Et selon les informations à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Mais alors que quand vous faites le tour de Lomé, plusieurs instituts d'enseignement supérieur sont là dans tous les domaines. Mais Dieu seul sait combien sont conformes, combien sont reconnus, combien disposent d'une reconnaissance ou d'un récépissé de l'État. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut avoir le courage de le dire. Mm-hmm. Le problème s'est toujours posé. On ne va pas trahir certains secrets ici. Vous savez, mais l'un des anciens directeurs de l'enseignement supérieur avait démissionné entre-temps. Il s'agit du professeur Assimi Pacha. On peut se poser des questions. Un professeur de ce rang qui, à un moment donné, directeur de l'enseignement supérieur de son État, qui décide justement de rendre le tablier, on peut bien se poser des questions sans nécessairement rentrer dans les détails. Il y a un vrai problème. Mais non, et comme je le dis, mieux vaut tard que jamais, il nous semble que l'État finalement prit la mesure. Et il faut encourager l'État à avancer. Vous savez même que nous qui avions eu la chance de frotter encore avec l'université il n'y a pas 2 ans, mais au cours de notre parcours, nous avons constaté justement que des camarades venant des institutions privées avec leur parcours licence étaient confrontés à un problème d'homologation avec l'université. C'est dire quand même...
L'université de Lomé...
Mais bien entendu, quand vous venez d'une institution privée, d'un institut supérieur privé pour poursuivre vos études à l'université de Lomé, il y a ce qu'on appelle l'homologation. Au moins ça nous rassure quand même que l'université de Lomé est l'une des universités sérieuses quand même du pays.
Merci.
Ça,
alors Isidore, le rapport il est là, il est disponible, chacun peut le consulter. Je rappelle encore ce chiffre qui doit faire froid dans le dos, 37 instituts supérieurs sur 47 qui délivrent des diplômes qui ne sont pas reconnus. Ni ici, ni surtout au CAMES. Et puis, autre constat encore, les curricula qu'affichent les écoles ne sont pas enseignés totalement. On délivre des diplômes alors que les étudiants n'ont même pas soutenu leur mémoire de licence et autres. Les professeurs même qui enseignent dans ces écoles ne sont pas habilités à le faire. Mais comme disait tantôt Montosso, comment est-ce qu'on a pu laisser ça se faire devant nos yeux et durant tant d'années, Isidore?
Ben, c'est un laxisme qu'on constate. Et depuis bien avant, Nuke Broom, je crois que Yves Nagou était passé par là, non?
Oui, Yves Nagou, déjà en son temps.
Oui, il était passé par là. Moi, je suis de près ce sujet. J'ai eu l'opportunité, tu sais que je frotte souvent avec ces enseignants de ces universités privées. Et je pense que quand vous êtes aux affaires et que vous devenez membre du conseil d'administration d'un institut privé universitaire, il y a problème. Il y a problème. Tous sont des présidents du conseil d'administration.
Quand tu dis tous, tu penses à qui?
Bon, je ne vais rien. Je ne vais rien dire ici. Allez fouiller. Je continue.
Isidore, le sujet est tellement sérieux. Nous avons le droit d'éclairer l'opinion.
J'ai eu l'opportunité.
Il y a plein d'étudiants, surtout de parents qui nous écoutent.
Moi, j'appelle ça des diplômes du quartier. Non, j'appelle ça des diplômes de quartier. Mm-hmm. Bon, le problème qui s'est posé, il y a certains qu'on pousse à aller vers Kames et d'autres qui sont dans ISO. C'est ça, le vrai problème. Donc, certification ISO.
Oui.
Je peux continuer.
Oui, allez, vas-y.
J'ai eu la chance ou l'opportunité d'avoir l'interview de Assimi Kpatia, qui m'a accordé une interview explosive que j'ai publiée en deux temps, en série. Vous vous souvenez de ça? Mm-hmm. Il a tout dit. Il avait tout dit, tout ce qui a poussé à sa démission, ces choses-là. Mais c'est avant tout le problème de Curcula. Il y a des options qui se chevauchent. Mm-hmm. Quand vous prenez tel institut, il faut la même chose, mais dans un autre nom. Et quand vous voyez les
unités d'enseignement.
Oui. Mais c'est pratiquement la même, mais ça varie d'un établissement à un autre. Pourquoi ne pas les harmoniser? Mm-hmm. C'est pourquoi moi, depuis, j'en appelais à un diplôme national. Mm-hmm. Aujourd'hui, tous les enfants là ont fui le BTS. Hein. Ils disent LMD, parce que c'est un diplôme d'école. Que tu aies réussi ou pas, mais c'est l'établissement qui t'évalue. Alors que quand tu vas à BTS, si tu es soumis à l'épreuve nationale. Mm-hmm. Et beaucoup ont déserté les BTS au profit de ces LMD.
Merci. Ils ont le une licence. Est à main. Parcours a été lent, mais heureusement, avec ce rapport que le gouvernement a courageusement commandité, et dont les conclusions sont là, et vos journaux nous en donnent quelques aspects, notamment à Montosso. Quand Togo Matin écrivait hier que les évaluateurs suggèrent entre autres l'harmonisation des syllabus et curricula d'enseignement au niveau de chaque filière
évidemment
et parcours du système LMD. Mm-hmm. Ces évaluateurs suggèrent également des études approfondies devant aboutir à l'harmonisation des examens pour les matières fondamentales au niveau de chaque filière et parcours du système LMD, entre autres.
Mais c'est tout à fait pertinent dans la mesure où, regardez, deux étudiants qui viennent du Togo et qui se retrouvent en France ou au Canada ou je ne sais pas, dans un autre système et qui veulent poursuivre. Mm-hmm. Alors, deux étudiants qui vous disent qu'ils sont nantis de leur licence au Togo, mais en réalité, quand ils se retrouvent dans l'autre système pour être évalué, mais le niveau d'évaluation est homogène dans les autres systèmes. Mm-hmm. C'est-à-dire, alors, ça veut dire que un étudiant togolais qui vient d'une institution privée et qui se retrouve soit au Canada ou dans un autre système occidental est probablement en déphasage avec, justement, et ça, à un moment donné, il faut qu'on se dise que quand on vient du Togo, qu'on vienne d'un institut d'enseignement supérieur privé ou d'un institut d'enseignement public, que les niveaux soient pratiquement ou les parcours soient véritablement identiques ou les mêmes. Ça, c'est très... Mais vous savez, je voudrais compléter un peu ce que Isidore dit. C'est une question très sensible et beaucoup de parents nous suivent. Le problème de l'enseignement supérieur
privé
ressemble un peu à ce qui se passe dans le secteur médical. Vous savez, parce que c'est les mêmes Vous ne pouvez pas vous permettre d'ouvrir une école d'enseignement supérieur dans le privé, mais si vous n'avez quand même pas un certain parcours, vous n'avez pas un certain grade dans le monde universitaire. Mais alors donc, mais vous savez, pour avancer dans le monde universitaire, il faut quand même être du monde universitaire public pour pouvoir justement déposer ces dossiers suivis, etc., etc. Il faut être surtout de l'université, soit de Lomé ou de Cara, les universités publiques. Et vous ne pouvez pas. Mais généralement, il faut être professeur titulaire, il faut être maître de conférence pour prétendre pouvoir ouvrir une école d'enseignement privé dans le privé. Vous voyez, donc ça, c'est un problème. Mais l'autre problème qui a été posé au temps du professeur Nico Blum, il faut le dire, c'est le problème des publicités mensongères, justement, qui appâtent les parents. Beaucoup d'écoles aujourd'hui font des publicités un peu partout, sur toutes les radios, en disant « Ah, nous sommes en jumelage avec des universités au Canada, en France, etc. » Mais quand vous fouillez, il n'en est rien.
Oui.
Les parents se retrouvent finalement comme
derniers. Tu as donné le bon exemple.
Oui, mais il faut qu'on rectifie.
Eric, d'abord, ils doivent rectifier.
Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le partenariat. Un an, deux ans, après, ils ne renouvellent pas. Et mais ils continuent pas à afficher qu'ils sont en partenariat avec telle université de tel pays.
C'est ça le problème. Ce que je voudrais dire au fait... Quand il a donné l'exemple des étudiants qui quittent le Togo pour un nouveau système. Alors, quand votre université privée vous dit « nous sommes en partenariat avec telle université », ça veut dire que quand l'étudiant va composer, c'est les épreuves qui sont envoyées par l'université avec laquelle on est en partenariat.
Oui, il y a une université privée dont j'étais le nom ici qui le fait.
Et donc, vous avez... un diplôme qui est homologué...
Délivré par
cette université-là, ce qui vous permet de continuer vos études dans cette université partenaire. Par contre, si vous ne renouvelez pas, comme l'a dit Isidore, c'est que vous passez un diplôme qui est délivré par votre université privée ici et qui n'est pas reconnu. Absolument.
Alors qu'on dit autre chose aux parents et aux étudiants.
Voilà. Il y a un problème qu'il faut aussi relever. C'est l'absence, il faut le dire, l'absence des curricula officiels.
Ah oui. Tout à fait. Il faut harmoniser les curricula.
Qui a poussé ces universités-là à créer très rapidement des filières.
Des filières qui chevauchent.
En se disant que ce sont des filières qui sont en vogue à l'international.
Bon, maintenant, le constat, il est là. Oui. Et Eric, nous avons remonté jusqu'à Yves Madonagou, professeur Assima Tacha, qui a dû démissionner, Octave Nicobrum. Maintenant, Iou Majesté, qui est là, et qui prend courageusement la décision de rendre public ce rapport. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête là, d'autant plus que les évaluateurs... suggère à l'État des mesures assez hardies. Alors, est-ce que Majesté Iou et tout le gouvernement auront le courage de faire en sorte que les suggestions des évaluateurs soient mises en œuvre?
C'est plus une question de moyens que de courage. Est-ce que
c'est une question de courage? Lorsque vous commanditez une enquête de ce genre, c'est que vous avez une idée, c'est que vous voulez aller quelque part. Et là, c'est une question de courage politique. Il faut que désormais, ceux qui sont à la tête de ce ministère de l'enseignement supérieur prennent le taureau par les cornes. Parce que nous évoquions tout à l'heure le problème... d'harmonisation des diplômes. Les diplômes officiels. Et c'est là le titre. Plus des diplômes, des examens nationaux.
Oui.
Il faut qu'on en arrive là. Et je crois que le ministère a bien dit qu'il y a une cellule de qualité qui est mise en place.
Une agence nationale
de qualité qui est mise en place, qui va permettre de reconnaître automatiquement les diplômes nationaux. On n'aura plus besoin d'homologuer avant de continuer, comme l'a dit Montessor, à l'université de Lomé. Vous sortez d'une université privée reconnue par l'État, vous pourrez continuer tout simplement votre cursus.
L'harmonisation des curricula également, pourquoi pas des examens nationaux,
universitaires. Ah, ajouter quelque chose.
Il y a deux aspects. Hein. Oui. Il y a deux aspects que Montoso et toi, vous avez évoqué.
Oui, oui.
Et même un peu Eric.
Oui, oui.
D'abord, qui est-ce qui a la base de la création de ces écoles et celui privé?
Bon, on laisse l'État même.
C'est généralement des.
Mais le problème.
Une seconde. C'est généralement de grands noms du monde universitaire.
Évidemment.
Si c'est pas eux qui ont créé, c'est eux qui en président le conseil d'administration. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, le nombre. Eric envassait tantôt un nombre de moins 25 000 étudiants fréquentant ces écoles institutions privées. Alors, c'est des paramètres. Qu'il faut savoir manier, c'est là que c'est pourquoi je demandais si l'État aura le courage et les moyens de faire respecter les suggestions.
Il faut ajouter oui. Ceux qui enseignent dans ces universités privées aussi.
Oui.
Mm-hmm. Vous savez qu'il y a des professeurs à l'université de Lomé qui ont des antennes là-bas.
Mm-hmm. Oui, oui. Alors, la question du courage politique ou pas, et surtout également des moyens revient à l'État.
Je reviens sur l'institutionnalisation d'un diplôme national. C'est une très bonne chose. Tous ceux qui sont dans le système CAMES, qui s'alignent vis-à-vis du diplôme national, et qui sera concordé par l'Université du Bénin, ou enfin les universités publiques.
Ouais.
Bon, maintenant, ceux qui ont des partenariats avec d'autres universités et qui viennent, qui se déplacent, faire l'évaluation sur le terrain et délivrer des diplômes de leur université, comment on va régler ce problème?
En tout cas, je crois que ceux qui
ont... Eh bien, encore une fois...
Parce qu'il y en a.
Je pense qu'on peut, on peut même prendre exemple sur les écoles privées qui, du secondaire qui sont en partenariat avec des collèges ou
des universités en France. Prenons l'école Alpha. Lumière.
Vous allez passer votre bac en France.
En France,
c'est ça. Vous passez des examens officiels.
Exact.
Oui, oui. Et donc, vous avez des diplômes qui sont reconnus partout. Et donc, vous continuez votre cursus sans aucun souci. Mais là, lorsque un parent ou un étudiant finit son cursus dans une université privée, et qu'il veut continuer, malheureusement...
Il a plus...
Son diplôme n'est pas reconnu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir et passer un diplôme qui est reconnu.
Soit Il faut interpeller ses patrons, si c'est la direction de l'enseignement supérieur, pour qu'il veille au grain. Pour qu'elle veille plus.
Merci, je sais que...
Pouvoir faire le ménage.
C'est se ruer dans les brancards. Et je lui souhaite beaucoup de courage dans cette aventure-là. Il faut qu'il convainque d'abord le gouvernement de lui donner les moyens faire mettre en œuvre les suggestions que lui proposent les évaluateurs. Et puis, il va lui falloir du courage parce qu'il sait déjà certaines personnes qu'il va devoir affronter dans ses écoles et les études supérieures. Nous lui souhaitons beaucoup de courage.
Comme nous parlons
par l'harmonisation des curricula.
Nous parlons là de l'enseignement, de l'éducation dans notre pays. Vous vous rappelez des édiles. Comment
écoles d'initiative locale.
Comment on crée ces écoles-là et aujourd'hui, mais on a mis fin, on a mis un terme à tout ça.
C'est Cocoroco qui est en train d'enseigner. Ça n'a pas été si aisé pour lui, mais il est en train quand même de réussir ce pari-là.
C'est pour vous dire que c'est la même chose qui se passe avec les universités privées. Oui. Du moment où des politiques sont impliquées dans la création.
Merci. Et pour terminer, nous sommes déjà en mai. Bientôt, les examens vont commencer jusqu'au bac. Chers parents, chers étudiants, nous ne savons pas si arrivera à assainir tout cela d'ici septembre-octobre, mais déjà les parents et les futurs bacheliers doivent savoir où mettre ses pieds pour les étudiants, où mettre ses enfants pour les parents, pour ne pas se retrouver avec des diplômes qui ne sont que des papiers entre les mains. Nous continuons avec le chapitre des recensements. Hier, le Conseil des ministres s'est réuni. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le communiqué, mais ce que nous retenons, c'est ce recensement des Togolais de la diaspora qui a été fait entre le 8 mars et le 30 juin 2022 et qui affiche officiellement le chiffre de 950 436 Togolais. Isidore, est-ce que tu t'attendais à un tel chiffre ou bien tu t'attendais à plus ou bien à moins?
À plus, mais avant que je n'arrive là, oui. Et quand vous lisez la conclusion de la journée de réflexion des enseignements, de l'enseignement supérieur public, mais il y a aussi des problèmes là-bas.
Non, aujourd'hui, oui. C'est la page du privé.
Il faut pas qu'on quitte cet aspect. Ouais, parce qu'eux aussi, ils ont relevé cette insuffisance.
Beaucoup de choses.
Oui, mais qu'il faut recadrer.
Oui.
Bon, maintenant
900, les Togolais de l'extérieur, 950 436.
De l'extérieur.
Oui. Enfin, ceux qui se sont fait recenser entre le 8 mars et le 30 juin 2022.
C'est peu. Et quand on estime les Togolais d'étrangers à hauteur de 1 500 000, voire 2 millions. Donc,
sur quelle base?
Bon, justement. Ça, c'est sur quelle base, je ne saurais le dire. Mm-hmm. Et vous savez, il y a certains, il y a des activistes souvent qui disent qu'ils veulent mal accéder à l'ambassade, on leur a fermé la porte au nez. Donc, nos ambassades sont devenues, c'est à la tête du client, alors que l'ambassade, c'est pour tous les citoyens.
Bon, à donc, ce niveau-là, c'est vrai que j'avoue, je n'ai pas, j'ai pas en mémoire tous les critères qui ont guidé ce recensement des Togolais de la diaspora.
Mais il y a beaucoup de Togolais de la diaspora qui ne flirtent pas avec les ambassades installées dans les milieux.
Bon, là, c'est
pour des raisons politiques.
C'est un temps partagé parce que l'ambassade, c'est la République.
Mais quand quelqu'un va à l'ambassade, on lui fait la porte au nez.
Oui, je dis
n'est pas Togolais.
Le temps est partagé. Les ambassades, c'est le Togo à l'extérieur. Le personnel de l'ambassade devrait s'ouvrir à tous les Togolais.
À tous les Togolais.
Et en même temps, tous les Togolais devraient se retrouver dans l'ambassade comme nous nous retrouvons ici.
Moi, j'en connais. Quand leur passeport arrive à terme, ils sont obligés de revenir au pays.
Mais pour le recensement,
ils ne passent pas par l'ambassade.
Pourquoi? Bon, c'est vrai que je disais
parce qu'ils n'ont pas confiance à ceux qui sont là-bas.
Je disais tantôt que je n'ai pas tous les paramètres, tous les critères en tête. Mais est-ce que tous les Togolais qui sont à l'extérieur sont allés spontanément se faire recenser et qu'on ait fermé la porte au nez à celui-ci ou à celui-là? Ça, c'est de deux. Est-ce que c'est les Togolais qui détiennent les papiers officiels à l'extérieur qui étaient concernés par ce recensement ou bien n'importe Togolais qui se retrouvait hors du pays avec ou bien malgré lui?
Enfin, je n'ai pas les détails des critères, mais je pense que pour le minimum, pour aller se faire recenser, le minimum qu'on puisse quand même réclamer à quelqu'un qui se présente pour se faire enrôler, c'est de lui demander au moins le minimum, le béaba, des pièces qui justifient qu'il est
Togolais. Le passeport, le permis de séjour,
exactement.
La carte consulaire, selon le pays d'accueil.
En tout cas, au-delà de ça, le Togo a fait un grand pas avec quand même ce recensement. C'est le premier du genre et je crois que forcément, il va y en avoir dans les années à venir. Il était très important parce que depuis un moment, nous tous, nous reconnaissons la place, sinon le poids de la diaspora, justement, dans notre économie. Toute la place de la diaspora avec les transferts. Ça, c'est vraiment... C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il est très important aussi de compter sur cette diaspora dans la mesure où nous étions en train de parler de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Nous savons que bon nombre de Togolais se retrouvent un peu partout sur la terre et qui apportent leur expertise dans plusieurs domaines. À un moment donné, je crois que le pays aura nécessairement besoin de ces bras valides. Mmh. Et il était important de faire cet exercice pour avoir à peu près ce qu'on appelle le profilage. le profilage de cette diaspora, en quoi est-ce que cette diaspora peut être utile pour le pays, en quoi est-ce que cette... Et donc, je crois d'ailleurs même, quand on regarde un peu ces dernières années, qu'il y a une volonté manifeste de travailler sérieusement, de collaborer. En tout cas, pour l'État, de collaborer avec cette diaspora. Vous savez qu'il y a un guichet unique de la diaspora qui a été mis en place depuis quelques années et qui, bon an, mal an, fait son chemin. Et je crois que des Togolais qui sont peut-être réticents aujourd'hui dans la diaspora... La diaspora est une très, très grande question, que ce soit au Togo ou dans plusieurs pays. Ben oui. Et nous savons que, bon, au Togo, par rapport à notre histoire, l'histoire qui a amené certains à s'exiler, etc., oui, cette diaspora-là, surtout cette diaspora peut-être... Mais en fait, il faut à un moment circonscrire les choses. Parce que la diaspora, elle est très, très vaste. Quand vous êtes Togolais vivant au Ghana, vous êtes de la diaspora. Mm-hmm. Quand vous êtes Togolais vivant au Burkina, vous êtes de la diaspora. Donc, mais il faut connaître la diaspora togolaise en Afrique, il faut connaître la diaspora togolaise en Europe, il faut connaître surtout la diaspora continents. Togolaise en Asie, etc. Mm-hmm. Et peut-être les leur motivation, leurs histoires pour savoir vraiment. Donc,
reviens au communiqué du gouvernement qui dit que le gouvernement, à partir de ces résultats, le gouvernement pourra mieux adapter les différentes politiques publiques de développement, affiner les orientations stratégiques en matière de gouvernance des relations avec la diaspora et amplifier les initiatives en vue de les rendre encore plus inclusives et plus participatives.
Alors,
oui, Eric,
ça veut tout dire. Ça, un recensement des Togolais de l'étranger est une très bonne chose. Et quand Isidore parlait tout à l'heure en disant que oui, on devrait normalement avoir plus de Togolais que ce qu'a révélé ce recensement, on peut être d'accord avec lui. Parce qu'il y a aussi des situations politiques qui ne permettent pas à certains de se faire enrôler, tout simplement. Mm-hmm. Mais, et j'ose croire une chose, si vous avez une fois fait l'extérieur, et que vous devriez voyager de votre pays hôte à un autre pays, et que vous avez besoin d'un document de voyage comme la carte consulaire. Je me rappelle, quitter le Sénégal pour l'Afrique du Sud, prendre un visa, l'ambassade de l'Afrique du Sud demande, comme vous n'êtes pas Sénégalais, mm-hmm. votre carte consulaire. Et c'est en ce moment, vous voyez les gens courir dans tous les sens pour aller voir le consul du Togo au Sénégal pour demander cette carte consulaire. Mm-hmm. Je pense que c'est une très bonne chose, ça permet aux Togolais d'approcher leur représentation diplomatique dans les pays où ils se trouvent. Parce que à tout moment, ils peuvent avoir besoin de cette représentation diplomatique. La deuxième chose, c'est une question que je m'étais posée hier quand j'ai écouté cette communication du gouvernement. Désormais, est-ce que cette négligence des Togolais au cours des élections dans notre pays va être désormais mise de côté? Est-ce que désormais les Togolais de l'étranger pourront participer aux élections dans notre pays, puisqu'ils sont appelés à participer au développement de notre pays? Mm-hmm. Alors, quelqu'un qui travaille pour son pays, quelqu'un qui apporte une contribution, comment peut-il être exclu du choix
Eric, je te rappelle juste que ça fait au moins quelques temps que les Togolais de l'extérieur votent au moins quand il s'agit de l'élection présidentielle.
C'est ça.
Oui. Maintenant, des législatives,
moi je parle, moi je local, je parle de toutes les élections. Il ne faudrait plus seulement parler d'élections présidentielles, parce que là encore, il y a des voix qui se levaient pour dire non, c'est pas vraiment le vote des Togolais, mais on peut commencer avec d'autres élections, voilà, pour voir.
C'est des pistes. Nous avons le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur.
Ma troisième,
les réflexions peuvent se faire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une des formules pour que
le problème,
des députés
le problème de l'extérieur de ce Haut Conseil se pose. Ma troisième préoccupation, c'est par rapport à ces Togolais-là qui sont à l'extérieur. Lorsque ces Togolais-là s'organisent, est-ce que c'est eux qui font le choix? Ils font une élection parce que ailleurs, comment ça se passe? Il y a des élections pour que les gens représentent forcément leur communauté dans le pays hôte. Mm-hmm. Est-ce que à travers ce recensement-là, on pourra organiser, vu la densité de ces Togolais dans leur pays hôte, est-ce qu'on pourra organiser des élections pour qu'ils mettent à leur tête quelqu'un qui puisse les représenter valablement? Parce que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pose un petit souci à ce niveau.
Ah, la réflexion. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que j'en connais beaucoup qui ne s'intéressent pas. Quand vous posez la question, je dis, mais qui sont-ils?
Oui, les réflexions.
Maintenant, continuer. Et quels sont les critères? Parce qu'il y a aussi les binationaux. Je sais qu'il y a une faveur qui leur est donnée aux binationaux togolais. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez présenter votre carte et vous passez. Mais est-ce que les binationaux sont aussi ont le droit de s'inscrire sur la liste électorale?
Ok. Comme le gouvernement, depuis quelques années, s'ouvre à la diaspora. Oui. Maintenant, on a fait un recensement.
Les réflexions doivent continuer. Beaucoup ont venu à leur nationalité.
Non. Merci. Je voudrais qu'on avance.
Une fois que la constitution togolaise reconnaît la binationalité, je ne pense pas qu'il y ait encore un problème.
Sauf si vous avez renoncé à votre
ceux qui ont renié à leur nationalité.
Les pistes de réflexion doivent continuer. S'ouvrez, qu'on continue avec l'autre recensement dans lequel nous sommes de plein pied. C'est le recensement électoral. Et comme l'écrit le confrère, l'audience aujourd'hui, le processus électoral qui avance à grands pas est fin du recensement électoral dans la zone numéro 1 depuis hier. Et c'est également hier, le 8 mai, que des magistrats chargés du contentieux préélectoral ont été nommés. On peut s'étonner que la CENI ait attendu jusqu'au 8 mai seulement pour nommer des magistrats chargés de connaître les contentieux préélectoraux. Et le recensement, l'enrôlement sur la liste électorale, ça peut créer un contentieux, déjà, notamment dans la zone 1. Ceux qui n'ont pas pu se faire recenser hier, est-ce que c'est fini comme ça pour eux? Mais est-ce qu'il y a un recours qui leur est offert? La question reste ouverte. Et puis le communiqué du gouvernement et le conseil des ministres qui dit, je cite, le gouvernement, saluant la mobilisation de la population, a déploré les dysfonctionnements et difficultés qui ont entaché l'opération de recensement. Et puis le gouvernement a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. Montchoso,
mais la suite, comment ne pas réparer le tort?
Justement, Montchoso, comment est-ce que le gouvernement reconnaît qu'il y a eu tellement de dysfonctionnements et de difficultés, et que nous, les médias, durant ces deux dernières semaines, nous avons crié tous les problèmes, tous les manquements, toutes les difficultés des partis politiques ont beaucoup crié, et que le gouvernement, reconnaissant les difficultés et dysfonctionnements, consacre la fin de l'opération dans la zone 1 hier.
C'est une question difficile, mon cher. Mais moi, je constate, heureusement, que le gouvernement lui-même constate. Et ça, je crois quand même que c'est bon signe. Et je voudrais dire quand même que le gouvernement dispose de tous les leviers. En tant que gouvernement, ayant constaté effectivement, comme tous les Togolais, qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans la zone, la première zone de recensement, le gouvernement dispose de tous les leviers pour voir dans quelle mesure ce tort peut être réparé, même si ce communiqué consacre la fin. Donc, avant de rentrer dans tous les autres commentaires possibles autour, Parce que, en tout cas, cet engouement, habituellement, nous savons que la zone 1, la première zone là, est généralement la zone où on recense, il y a un faible engouement. Donc, oui. Donc, mais à la grande surprise cette année, en tout cas, cette mobilisation. Moi, j'estime que c'est une mobilisation qu'on peut aligner sur une certaine maturité du peuple togolais à un moment donné. Maturité, et je m'explique. Parce que par le passé, vous savez, l'opposition, plusieurs leaders ont toujours appelé à boycotter, etc. Et malheureusement, les électeurs en font les frais après.
C'est les mêmes qui ont appelé aujourd'hui à aller se faire recenser.
Qui ont appelé. Et donc, mais la question qui se pose aujourd'hui, au regard de cet engouement, l'une des questions qui se pose, mais quelle est la confiance? Quelle est la confiance que, justement, ce peuple-là place en la parole de l'opposition dans un contexte où l'opposition est sérieusement...
Le débat aujourd'hui, c'est le recensement. Nous savons que... C'est le recensement. Tous les partis politiques ont appelé à la mobilisation.
C'est nous qui faisons le débat.
L'aspect que je voudrais qu'on aborde, les partis politiques ont appelé l'opinion, la population, à se mobiliser pour se faire recenser. Les gens se sont déplacés dans les centres de recensement, mais ils n'ont pas pu être enrôlés. La faute, c'est à qui? Et si l'opération est finie hier, et à qui ces gens-là doivent-ils se plaindre, Isidore?
Non, mais c'est à la faute au gouvernement. C'est à ce faute à la CENI. Parce que, vous vous souvenez, on en a parlé, on a tiré sur le tocsin, mais on n'a rien voulu entendre. Et quand on a donné 2 jours, moi je disais que c'était une mauvaise blague. Et aujourd'hui, tout le monde en est conscient, même le gouvernement, à travers le communiqué. Sauf que le gouvernement ne voulait pas prendre sa responsabilité. Bon, je crois que après ce qui se serait passé dans les autres zones, on peut revenir. Et c'est en cela que je suivais le développement de Montjosso. Mais le gouvernement a tous les leviers. On peut amener. La fois dernière, j'étais allé à un centre de vote. J'étais agréablement surpris que dans ce centre, dans les bureaux, il y a 5 kits. Alors que chez nous ici, il n'y a qu'un seul kit. Mais le déploiement s'est fait, c'est passé à la tête du client ou je ne sais. Donc, s'ils ont assez de kits, c'est le problème des kits. Ce qu'il faut refaire remarquer, nous ne sommes pas dans une opération de révision de liste. C'est de recensement
intégral.
Donc, tous ceux qui avaient eu leur nom sur le fichier doivent encore aller se faire recenser.
Oui.
Mais on donne peu de temps avec des matériels vétustes qui ne répondent pas, qui plantent à chaque bout de chemin, et des opérateurs de saisie qui ne maîtrisent pas le clavier. Toutes ces histoires-là, on en avait parlé.
Il faudrait que le gouvernement hier encore, il y avait de longues files dans les centres de recensement. La porte leur a été fermée au nez. Ailleurs, c'est les agents et les opérateurs qui étaient là avec les membres des CLC, mais il n'y avait pas de consommables. Soit c'est l'encre qui manquait, ou bien c'est la carte qui manquait. Et puis tout ce beau monde-là a été renvoyé à la maison et que c'est fini dans la zone 1.
Alors, je pense que tout ça, c'est la faute à la CENI et non au gouvernement. Parce que le gouvernement ne doit en aucun cas s'ingérer dans le fonctionnement de la CENI.
La CENI est indépendante.
Et donc, aujourd'hui...
Elle dit indépendante.
Oui, que ce soit dit ou pas, mais la CENI est indépendante. Et c'est ce qu'il faut relever. Le gouvernement a fait un constat. Le gouvernement a demandé aux acteurs de prendre leurs responsabilités. Moi, ce que j'aurais plutôt voulu, c'est que le gouvernement demande à la CENI clairement de prendre ses responsabilités et non les acteurs. Parce que c'est la CENI qui organise ce recensement. C'est à la CENI de prendre cette disposition pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Il ne faudrait pas que certains citoyens se retrouvent sans pouvoir se faire enrôler, même s'il y a eu 2 jours de plus. Et d'ailleurs, si le gouvernement devait normalement s'ingérer dans
Eric, cette Eric, histoire, dis-moi, tu as pu avoir ta carte finalement.
Bien sûr.
Alors, la félicitation.
Non, je l'ai eu.
C'est dès le premier jour que je l'ai eu.
Oui, le troisième jour, je t'avais dit que je m'étais inscrit et j'étais 55e à 7 heures du matin. Donc, le lendemain, j'ai pu avoir ma carte des lecteurs. Et là encore, il faut qu'on dise les choses. Lorsque cette opération a commencé et il y avait eu les premiers problèmes, la CENI devrait forcément communiquer pour expliquer aux citoyens pourquoi il y avait eu ces dysfonctionnements. Et à partir de ce moment, je pense que les citoyens se sont mobilisés parce que il y a eu beaucoup d'événements après les dernières élections où je donne toujours l'exemple de Novici.
Et
surtout, à certains niveaux, des citoyens qui sortent la nuit, qui n'ont pas de carte d'identité. Au moins, lorsqu'ils ont la carte d'électeur, ça leur permet de circuler librement.
Et même faire des opérations bancaires.
Tout ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui,
la responsabilité de la CENI de faire en sorte que tous les Togolais, le maximum du moins, aient leur carte d'électeur.
Maintenant, nous attendons la CENI pour voir si finalement, elle va se décider à communiquer, à expliquer les choses dans la zone 2 et pourquoi pas, à la fin de cette zone-là, revenir dans la zone 1 pour combler.
Non, mais je voudrais dire que le président de la CENI a communiqué, je crois, dès le deuxième ou troisième jour. Il y a eu un communiqué officiel de la CENI où le président indexait les OPS. Et ce qui a fait réagir, justement, un leader de l'opposition, comme Djeri Tama. Djeri Tama disait clairement qu'il n'était pas d'accord avec le président de la CENI qui portait la responsabilité de ces dysfonctionnements-là aux OPS. Donc, il y a eu... Mais moi, je reste encore convaincu que le problème est assez criard pour justement que on puisse quand même, entre guillemets, rétro-pédaler. Et il n'est pas tard.
Nous verrons ce que la CENI fera ou ne fera pas. Mais d'ici là... espérons que les dispositions seront prises, comme le gouvernement l'a dit hier, pour que les mêmes dysfonctionnements, les mêmes ratés qu'on a connus dans la zone 1 ne se reproduisent plus pour la suite. Les députés à l'œuvre, ils sont très occupés ces derniers temps. Le médium nous rappelle que déjà le 4 mai dernier, les députés avaient adopté trois projets de loi pour la promotion de l'économie maritime et de l'environnement. Trois projets qu'ils ont pu adopter en une séance. Et puis hier, 8 mai, les députés ont encore adopté trois projets de loi de ratification. Ces projets ont porté sur le secteur de médicaments, le statut du fleuve Mono et la création de l'autorité du bassin du Mono et enfin le développement du secteur minier. Et nous apprenons qu'il s'est ouvert également hier une session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA sur la réforme du budget programme et la transition fiscale au sein de l'UEMOA. Ça c'est des informations que nous savons, se réunir dans une session et adopter en même temps trois projets de loi.
Il fallait le faire, et ils le font.
Non, faisons cette remarque là.
Oui,
cette nouvelle législature est championne en adoption des projets. On n'a eu aucune proposition de loi allant dans le sens des intérêts des populations. Mais il ne faut que adopter les projets du gouvernement.
Depuis 1994, avec la 4e République, combien de propositions de loi les députés ont été soumises et qui n'aboutissaient pas.
Il y en avait eu beaucoup.
Ok. On va terminer maintenant avec l'exécutif. qu'est-ce qu'il en est de la coopération entre le gouvernement et les ONG? L'Union, Eric, c'est ton journal qui l'écrit que le 5 janvier 2022, un décret a été pris par le gouvernement qui fixe les conditions d'existence et d'exercice des activités des ONG, ainsi que les conditions pour qu'une une ONG puisse bénéficier de l'appui du gouvernement togolais. Mais le décret là n'est entré en vigueur que en avril dernier. Mais apparemment, les ONG ne sont pas d'accord. La preuve, comme tu l'écris, les ONG ont saisi le chef de l'État qui a instruit le ministre d'État Boukwesi de les rencontrer. La suite, Eric.
Et d'en discuter. Mm-hmm. Non, au fait, c'est comme tu as déjà donné les dates et tout, le décret a été pris en janvier 2022 et il y avait un moratoire pour les ONG et en général pour mettre en vigueur la nouvelle loi de fonctionnement des ONG dans notre pays. Effectivement, les ONG ont attendu, je crois, 2 semaines avant la mise en application de ce décret-là pour écrire à Fonia Simbé, pour lui demander de prolonger ce moratoire-là de 2 ans encore pour que les ONG puissent se mettre en ligne. Et le ministre Fadoua Boupessi a été instruit par le chef de l'État d'ouvrir un dialogue avec ces ONG-là parce que vous vous rappelez, le ministre Trimois disait également que pour toucher au nouveau code de la presse, il nous faut au moins 2 ans. Mm-hmm. C'est la même réponse qui a été donnée aux ONG qui ont rencontré le ministre Boupessi, que le décret ne pourra plus être retouché à l'heure actuelle, mais que consigne leur a été donnée de prendre langue avec les ONG pour que sur le terrain, lorsqu'elles auront des difficultés, qu'on puisse les aider à avancer en attendant que tout le monde se mette en règle. En réalité, il y a au moins une dizaine d'articles dans ce décret-là que les ONG n'acceptent pas, tout simplement parce que elles estiment que l'État veut contrôler leurs activités sur le terrain. Mm-hmm. Et c'est contraire au protocole ratifié par l'État togolais. Et donc, les ONG demandent tout simplement que l'État revoie un peu ce décret-là pour leur permettre de travailler confortablement sur le terrain. Mais l'État avance un problème qui est récurrent aujourd'hui, c'est le problème de l'insécurité. Mmh. Et donc, on estime qu'il y a des ONG travaillent plutôt pour certaines organisations terroristes ou djihadistes sur le terrain. Mais les ONG disent non, faut pas nous confondre à ces organisations-là. Nous venons pour vous aider par rapport au développement, au bien-être des populations. Ne nous confondez pas à ces organisations terroristes. Mais quelle preuve l'État peut-il avoir par rapport à ces organisations qui font travail-là, ce mauvais truc-là, avec les citoyens,
Eric, et tout ça. En tout cas, l'État, le gouvernement montre une certaine volonté de s'assurer d'un alignement de l'ensemble de ses partenaires sur sa vision à lui de développement et ajouter à ce contexte de sécurité fragile, l'État veut s'assurer le contrôle, la transparence et l'efficience des actions des ONG, ce qui crée un malaise au sein des ONG. Et la leçon positive, voilà le gouvernement qui prend un décret. Les acteurs n'en sont pas satisfaits. Ils écrivent au chef de l'État pour le saisir de leurs préoccupations. Et le chef de l'État instruit l'un de ses collaborateurs pour engager des discussions avec les ONG. Si ça peut faire effet boule de neige dans beaucoup de
secteurs. C'est un cas d'école.
Ce serait très bien. Oui, Isidore.
Non, vivement. Et vous savez, ce problème a commencé depuis, depuis que on sent un musellement des OSC au Togo. Et ça avait commencé et qu'on leur, dit, de leur demandait de donner et leur bilan, puis qu'on puisse suivre leurs transactions financières, ces choses-là, pour pouvoir les régenter. Ce n'est pas seulement au Togo ça s'est passé. Et en Guinée, je crois bien au Mali.
Au Mali.
Et ces choses-là, même au les Burkina, gens hein. au Burkina, on a renvoyé certaines ONG humanitaires, même dans les trucs humanitaires. Mais sauf que si vous signez des protocoles, vous signez des conventions, vous êtes tenu de les respecter.
Oui.
Le Togo n'est pas dans un cas d'état d'exception. C'est en cela que les ONG ont leur raison. Parce que c'est aux antipodes des dispositions de la loi de 1901.
Oui.
Et c'est ce que c'est ce qu'il
veut dire. Tu as raison. Et pour paraphraser quelqu'un, un accord lie au moins les signataires. Et comme l'État a signé le protocole,
je pense que
ce protocole l'engage. Il est midi. J'ai passé d'une minute. Alors, je voudrais juste cette information alerte à la CET. Quand vous allez au quartier du Mansessé et dans la maison de celui qui a donné son nom au quartier, Robert Adewi, il y a un poteau de la CET qui est tombant et qui est pratiquement à terre. Et en cette saison de pluie, les riverains craignent que les fils soient abîmés et que les fils traînent par terre et qu'ils soient cause d'incendie. Alors, les riverains veulent passer par le club de la presse pour signaler à la CET. On va au quartier Adewi, la maison de Robert Adewi, on va voir le poteau qui menace de tomber,
réparer. Non, le du campus.
Donc, tu connais bien le secteur. Eh bien, nous allons faire une pause et nous allons revenir bientôt avec les auditeurs. Thomas. Nous sommes de retour au studio ici sur les deux numéros que vous connaissez, mais que je me fais le devoir de vous rappeler, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, et nous sommes ouverts à tous vos commentaires, à vos questions. Premier auditeur qui s'annonce, bonjour.
Bonjour, mes grands frères, bonjour le plateau, je me nomme Messon, je vous appelle Dagouet.
Benoît Dagouet.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Ok, je dis, la commission électorale, on dit qu'elle est indépendante. Normalement, le gouvernement, hier, en suivant le Afrique Matin sur RFI, le correspondant de Radio France Internationale avait dit qu'il a demandé les explications aux partis unis au gouvernement, silence radio. Mais le soir, le gouvernement sort un communiqué, alors que ça devait être la CENI. Le gouvernement n'a pas le droit de venir nous dire que prochainement les choses vont s'améliorer. C'est comme si la CENI est la couverture du gouvernement.
Non, l'ami Benoît Dagouet, je ne sais pas, vous avez vu le communiqué qui a sanctionné le Conseil des ministres hier?
Non.
Ah bien, nous vous en relisons un extrait pour bien situer les choses. Alors, le gouvernement a dit. Le gouvernement, saluant la mobilisation de la population, a déploré les dysfonctionnements et difficultés. Et le gouvernement a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. C'est suite à une communication qui a été faite sur la première partie du recensement électoral.
Ok, ils n'ont qu'à revoir. Il ne faut pas que ça soit une deuxième étape. Ils n'ont qu'à prolonger les jours d'ici.
Je vous apprends que depuis hier, l'opération a pris fin dans la zone numéro 1, comme les confrères l'ont suggéré. Est-ce que... il faut toujours attendre un retour dans la zone 1. Nous verrons ce que la CENI fera ou ne fera pas, l'ami Benoît.
Ok.
Merci beaucoup, l'ami Benoît Dagouet. Un autre déjà en ligne. Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Jules depuis Ahanoukopé.
Jules depuis Ahanoukopé. Voisin de quartier ici. Eh bien, nous écoutons.
S'il vous plaît, j'aimerais vous poser une seule question. Concernant le recensement,
oui,
je me suis posé plusieurs questions. Je me demandais à savoir le recensement. Moi, par exemple, je suis un citoyen et que je dois accomplir mon devoir. Aujourd'hui, supposons que je suis un conducteur de Zébi-Diamant. J'ai gagné un peu de temps pour aller faire ma carte pour accomplir mon devoir. J'arrive, voilà que bon, les stations sont envahies par des étrangers, des avisas. Je me suis posé la question, je me demande, mais moi qui suis togolais, qui veut faire accomplir mon devoir, ben, les étrangers qui sont venus envahir les salles comme ça, là, eux, leur devoir, est-ce qu'eux aussi viendront voter ou bien comment?
Bon, ce constat a été fait dans quel quartier, s'il vous plaît?
À Hanoukopé ici, et puis à chose, comment l'appelle-t-on, Badago.
Et comment savez-vous que ce sont des étrangers?
En les voyant vous-même, vous savez, moi-même, je les ai vus.
En tout cas, ce que nous savons, c'est que ne peuvent s'inscrire sur les listes électorales que les Togolais,
voilà.
Les Togolais de nationalité. Soit on a un papier qui atteste qu'on est Togolais, ou bien, et c'est là que il y a les chefs cantons, les chefs qui sont représentés pour témoigner que celui qui n'a pas ses papiers officiels est quand même Togolais.
Vous permettez?
Oui.
Alors là, à ce que des étrangers aient pu se faire recenser, là je ne sais pas trop. Mais ce que vous dites, c'est quand même c'est intéressant.
Voilà. Ils sont venus, c'est surtout les femmes. Soit disons que c'est dit qu'ils veulent prendre l'argent de novices. Et d'autres même signifient que ce n'est pas passé pour voter, mais ils veulent traverser pour pouvoir traverser des frontières.
À ce niveau-là, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vérifié si ce n'est pas des gens qui détiennent quand même des papiers du Togo?
Oui, monsieur Sasso.
Oui.
J'ai bien vérifié. Ils sont venus avec leur nationalité, les cartes sur la liste.
À ce moment-là, est-ce que vous avez signalé ça à quelqu'un du bureau du comité de liste 4? Vous avez saisi une autorité sur ça?
Bon, je ne sais pas si c'est... On les a dit de faire à n'importe qui ou bien comment. Bon, je n'ai pas pu signaler ça quand même.
Est-ce que les cartes électorales ont été délivrées à ces personnes?
Bien sûr.
Bon, là, vous auriez dû en même temps attirer l'attention du président du comité liste cartes ou bien saisir une autorité.
Moi, j'ai fait ma carte hier difficilement.
Oui, là.
Je n'ai pas pu gagner le temps. Et puis, bon, je n'ai pas eu trouvé la place même pour faire ma carte.
Ça, on en a parlé. Mais le constat que vous avez fait, vous auriez dû en même temps hier attirer l'attention des membres du comité liste et cartes ou bien saisir une autorité pour qu'on vérifie cela. Maintenant, c'est fait. Je ne sais pas ce que. Ok. Merci pour ce témoignage. Un auditeur en ligne?
Bonjour.
Oui.
Je salue vos invités.
C'est monsieur?
C'est Mathieu.
Mathieu, oui.
Oui. Je vais répliquer sur ce que mon prédécesseur vient de dire. Il faut que nous sachions qu'il y a plusieurs façons d'avoir la nationalité togolaise. Il faut d'abord savoir ça, parce qu'on peut avoir la nationalité togolaise par naissance quand on est né au Togo. On peut avoir la nationalité togolaise quand on marie à un Togolais. On marie un Togolais.
Oui.
Et il y a beaucoup de gens. On peut avoir la nationalité togolaise par naturalisation. Donc, il y a beaucoup. Donc, le tout n'est pas de voir les Haoussa, les choses, pour dire que les étrangers vont se faire enrouler. Une chose est de les voir dans la cour. Une autre est de voir qu'effectivement, quand ceux-là sont rentrés dans la salle, ils ont été effectivement enroulés. Ils peuvent être rejetés. Ils peuvent avoir mari togolais. Ils peuvent avoir des nationalités. Parce qu'il faut que des gens sachent qu'un Français né en France peut venir au Togo avoir une carte d'identité togolaise quand il demande que l'État accepte. Donc, quand on ne maîtrise pas tout le contour d'accès à la nationalité togolaise, on va des fois, on dit des choses qui ne sont pas vérifiées.
Merci. L'occasion, encore une fois, de nous assurer.
Qui sont des Tonkosi, qui sont des Nyakotokoli, qui s'habillent des fois pratiquement comme nos frères qui viennent du Niger et du Mali et autres.
Nous-mêmes avons des boubous que nous portons des fois. Hein? Merci. L'essentiel, c'est que nous devons bien nous assurer de certaines questions délicates avant de les exposer en public. Voilà. Merci à vous. À vous, chacun pour son apport. Un autre auditeur, allô. Oui.
Allô. Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est ici. Oui.
Voilà, vous avez parlé des élections encore, le recensement, et puis les gens appellent pour dire que les étrangers votent Togo et tout le reste. Ça vous surprend ou quoi? C'est l'habitude des Africains. Tous les Africains, ils font ça. Nos gouvernants, ils le font de part en part.
Oui. Sauf que ce n'est pas des généralités que nous disons ici. Nous voudrions parler des faits précis et vérifiés.
C'est parce que les gens s'incrustent dans le pouvoir. Ils sont là à vivre. C'est pour ça qu'ils se permettent ces genres de dérives.
Oui.
Hein? Il y a qu'à faire. Les Africains ne sont pas sérieux. Il n'y a qu'à faire 2 ans. Moi, j'ai dit de faire 2 ans à la tête de nos États et de passer la main.
Oui.
Si tu donnes 4 ans ou 5 ans.
Et il faut alterner, c'est la solution pour tout ça, n'est-ce pas?
Pardon?
Et si, donc, la solution, c'est qu'il faut alterner au sommet de l'État.
Il faut alterner au bout de 2 ans avec les Africains.
Oui, justement. Et si nous aurons bientôt le rendez-vous des élections législatives. Oui.
Ils ne sont pas sérieux. Vous avez parlé des ambassades aussi. Qui filtrent les gens pour s'enregistrer. L'ambassade, les Togolais ont émigré par millions. Mais on nous parle de 950 000 enregistrés. Ça veut dire quoi? Et là-bas aussi, c'est les soldats. Les soldats sont partout. Vous voulez quoi?
Non, et s'il vous plaît. S'il vous plaît, par prudence, disons des choses dont nous sommes sûrs et sur lesquelles nous pouvons répondre ici.
Les soldats sont des Togolais. Ils sont des... Donc, on n'a qu'à faire tous les services militaires auxquels on a droit pour pouvoir travailler. On n'a qu'à nous faire le service militaire au bout d'un mois. Comme ça, tout le monde pourra travailler.
Merci. Et si votre fidélité nous conforte et nous réconforte, mais souffrez que nous passions à ceux qui attendent également en ligne. Allô, bonjour. Allô, l'ami?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, c'est Papa Sodile de Pierre-Moutivé.
Oui.
Voilà. Tout d'abord, je vous remercie le code de la presse.
Merci.
Mais ce que moi je remarque, c'est que vraiment, cette CENI est indépendante. Et que ce bon nombre de personnes à qui la porte était fermée hier, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu écrire ou bien s'inscrire hier là, est-ce que c'est leur faute? Ce n'est pas de leur faute. Mais il faut que la CENI fasse. Quand le gouvernement dit qu'ils ont pris acte et que cela ne se reproduise plus, bon, et ceux qui ne se sont pas enrôlés là.
Ouais.
Et si, quand on va faire deux.
Oui, c'est ce que nous avons dit.
Bonne journée.
Ceux qui se sont alignés toute la journée hier, mais qui sont repartis à la maison.
Allô, Canal FM, bonjour.
Et ceux qui se sont allés, ils n'ont pas trouvé de carte d'électeur.
Allô?
Ce n'est pas leur faute. Oui, l'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur. Allô, c'est monsieur? Allô? Oh, il a tellement insisté, puis au moment de parler, il est parti. Allô, un nouvel auditeur?
Salam alaikum, monsieur.
Monsieur Waris, ça fait un petit moment.
Oui, l'ancien m'a appelé, j'ai répondu favorablement, monsieur.
Bon citoyen d'État, comme dirait l'autre. Eh bien, nous vous écoutons, monsieur Waris.
Oui, merci. Bon, nous avons tous appris. Des leçons de ce recensement, que ce soit la CENI, les partis politiques et la société civile. Monsieur Sass, vous avez dit tout de suite que par la voix du Conseil des ministres, le gouvernement déplore des difficultés et des dysfonctionnements. Et je pense que cela doit être une preuve pour la CENI pour que les choses aillent bien dans la zone 2. Et pourquoi pas, après la zone 2, redéployer dispositifs poursuivent, s'il le faut, tous ces dispositifs de recensement dans la zone 1 où le besoin se fait sentir. Puisque M. Sav et ne pas avoir sa carte d'électeur vous prive des droits des électeurs. Je pense que les responsables de la CENI sont à l'écoute. Je pense qu'ils feront tout pour que tout le monde soit satisfait.
Merci beaucoup. Un auditeur nous dit même que ceux qui ont attendu longtemps mais n'ont pas pu se faire recenser devraient porter plainte contre la CENI pour se faire pour se voir restaurer dans leurs droits légitimes. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, Safi, bonjour.
Oui.
Joshua de Zamira.
Joshua. Eh bien, nous vous écoutons.
Et moi aussi, j'aimerais réagir concernant nos frères et nos concitoyens qui n'ont pas pu terminer le 4. Justement, que les autorités fassent quelque chose. Puisqu'ils nous ont dit que voter est un droit et un devoir. Maintenant, où est le droit maintenant dans cette histoire? Puisque les gens sont là. Moi, normalement, les bureaux doivent être ouverts jusqu'au dernier 40 ans. Je ne peux pas donner personne. Sinon, moi, ce que moi j'ai vu qu'on n'a pas fait un recensement électoral. Hein. Mais plutôt, ils ont organisé un découragement électoral.
Merci pour la figure de style. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, ça, Didier.
Oui, Didier.
Oui. Bon, ça, moi, je me pose la question, je le pose encore. Pourquoi commencer le recensement du sud au nord? Il y a moins de population au nord. En principe, c'est là qu'ils devront faire le recensement. S'il y a des erreurs, ils viendront quand il y a beaucoup de population. Donc, ils le font exprès. Secondo, c'est là même la faillite de la dynastie togolaise, du régime là, parce que beaucoup de gens vont prendre les cartes d'identité pour les cartes d'identité. Pourquoi ne pas organiser des gens foraines et puis faire des cartes d'identité aux gens, et avec les cartes d'identité automatiquement, les gens peuvent s'inscrire ou bien voter directement. Or, ils nous parlent à la fois de e-gouvernement, e-quoi, on ne sait pas là. Mais c'est les trucs là, ça va servir à ça, pour que les gens fassent les cartes d'identité, et puis avec les cartes d'identité, ils pourraient s'inscrire par internet ou bien ils pourraient aller voter directement. Ça, ils l'ont fait exprès pour que les gens n'aillent pas voter. Ils l'ont fait exprès. Nous ne sommes pas naïfs. C'est juste ce qui se passe.
Là, Didier, on pourrait dire que vous faites un procès d'intention au gouvernement, ça.
Ils ne comprennent pas, donc ils jouent sur ça.
Alors, Didier,
en principe, on devait les amener au tribunal.
Alors, Didier,
oui.
Bon, on pourrait vous dire que vous faites un procès d'intention au gouvernement.
Oui, c'est pas un procès d'intention, c'est ce qui se passe. Chaque fois, on crie les mêmes pour les mêmes. Vous savez combien de temps que cela se passe? Et chaque fois, quand les gens vont, on n'arrive pas, c'est lent, on n'arrive pas à le faire, à s'inscrire. C'est pas une fois, c'est pas la deuxième, la troisième fois. Ça, c'est pas ça, quoi. Mais pourquoi on ne le corrige pas? On a toujours crié de commencer le recensement, on aurait pu devenir au sud, mais pourquoi ils ne le font pas? Ils le font exprès. Là, si les gens réussissent à sortir, à s'inscrire beaucoup ici, ils vont gonfler au nord, c'est ce qu'ils font. Mais disons, tiens, le Togo, c'est qu'on n'aime pas dire les choses telles qu'ils se passent. C'est moi qui dis fibre ethnique, quoi, c'est ce qu'ils font.
Oui, mais disons des choses dont nous sommes sûrs et oui, sur mais, lesquelles nous pouvons répondre, Didier.
Oui, mais ça, je pourrais répondre, mais pourquoi ils le font? Ils commencent toujours. Ça fait 4-5 fois qu'on fait, il y a les mêmes erreurs, sinon les mêmes bêtises.
Didier, tu vas bien?
Allô?
Allô, Didier?
Mais pourquoi ils le font chaque fois? Non. Nous crions, mais commencez prochainement au nord et puis venir au sud.
Didier, Eric te salue. Eric te salue.
Ouais, Eric, bonjour. Bon, je suis là, hein. Moi, je suis parti faire ma carte électorale le dimanche, hein. Je suis rentré spécialement pour ça.
Merci. Ah, merci, citoyen d'État modèle. Allô? On prend le dernier auditeur. Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Monsieur Garo.
Ah, monsieur Garo.
Oui.
Nous vous écoutons.
Est-ce qu'on a supprimé le poste de chef de file de l'opposition?
Il y a un problème là-bas à ce niveau?
Oui, parce qu'il doit parler. Il est mieux de qu'un certain temps, donc on n'a qu'à supprimer ce poste.
Non, le chef de file de l'opposition a sorti un communiqué pour appeler la population à aller se faire recenser.
Non, quand la population crie que non, ça ne va pas, lui là où? On le fait avec notre argent, non? Si on ne peut pas travailler, on n'a qu'à mener une autre personne pour travailler à sa place. De toute façon, voilà ma proposition. Moi, j'avais dit que la CENI doit passer faire somme dans toutes les mairies. Durant toute l'année, celui qui doit aller faire la CAF peut aller. Il n'y aura pas de queue. C'est mieux que la mairie délivre la CAF, mais la CENI doit être là-bas à la mairie. Chaque mairie, c'est mieux. Merci, bonne journée.
Merci.
Bien faire les choses.
Merci. C'est une proposition qui n'est pas si banale que ça.
Ah,
oui. Oui, bonjour.
C'est Komi.
Komi. Oui. Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
La question que moi, on n'a pas fait de communication sur le recensement. Maintenant, entre nous, vous, les DP, qui a pris la communication de la CENI? Est-ce que vous qui êtes présent, quelqu'un parmi vous a été contacté pour ce travail? Deuxième préoccupation.
Oui.
Oui.
Non, nous faisons notre travail d'informer les Togolais tous les jours. Et comme le recensement est une question d'importance, nous faisons notre travail.
Je ne refuse pas.
Mais nous n'avons eu aucun signe de la CENI.
C'est ce que je dis. Par exemple, Canal FM est une grande écoute. Mais ils ne sont pas venus ici. Ils sont allés où? C'est ce que je voudrais savoir. Quoi. Il ne faudrait pas qu'on utilise notre argent à d'autres faits. Et après, on fait des fausses factures, des faux reçus pour justifier. L'histoire, là, c'est toute l'étendue du territoire. Il a parlé la dernière fois de 22, et comment dire, express, ou bien, j'oublie un peu votre dénomination. Qui sont ces 22-là qu'il a contactés? C'est hier, moi, en rentrant, que j'ai vu une pancarte sur laquelle ils ont soigneusement mis recensement. Ils n'ont pas mis de date. Pourquoi tout ça? Ça rime à la fraude. Pour finir, la question des universités que vous avez dit, c'est vraiment une croix. Si l'autorité veut en finir une fois pour de bon, bien assainir, il n'a qu'à aller jusqu'au bout. Parce que les parents saignent pour pouvoir mettre les enfants dans les universités, mais le feedback n'est pas ça. Merci.
Merci beaucoup, Komi. Eh bien, le constat, à part Komi qui a un peu parlé des universités privées, tous les auditeurs sont revenus sur le recensement électoral. Cela dénote, mon Tchosso, de toute l'importance de la question dans le public.
Y a pas
une minute, chrono, s'il te plaît.
Il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Ben, je crois que le souhait de bon nombre de Togolais à ce jour, c'est-à-dire au lendemain de la fin des opérations de recensement dans la zone, dans la première zone, mais c'est que justement qu'il y ait, si possible, des mesures qui permettent de revenir d'une certaine manière pour corriger, pour rectifier le tir. Alors, au nom de l'indépendance de la CENI, au nom de l'autonomie de la CENI, mais si c'est à la CENI qu'il revient de jouer cette carte, je crois que ça va permettre, ça va élever la CENI. Oui, la CENI va pouvoir en sortir très grandi avec une telle décision. Moi, je pense que la CENI aura montré vraiment qu'elle est à l'écoute et qu'elle ne ferme pas les portes justement au soupir ou au...
Merci beaucoup, mon Tchosso, Dieu donne Korlakna, Isidore Akolo.
Non, la CENI n'a pas droit à l'erreur. La CENI n'est pas sa première. On a eu beaucoup d'expériences de recensement et ce qu'on a connu cette fois-ci, c'est du flop. Il faut que la CENI puisse se ressaisir. Beaucoup ont parlé aussi de la non-communication autour de ce processus de recensement.
Mais il y a eu un grand monde. Ça veut dire que la communication, d'une certaine manière, est passée.
Non, la CENI n'a pas communiqué. C'est les acteurs.
Ce sont les partis politiques, la société civile et les journalistes
qui ont fait le travail. Donc, il faudrait que pour les étapes à venir.
Quand c'est politique, la communication coule de source.
Oui, vivement que pour les autres étapes, on puisse impliquer la presse. On n'a pas senti une implication de la presse. C'est très important. On appelle les gens,
notamment
et à tête du client, et au pied levé, venez faire ci, venez faire ça. Non, il faut un plan de communication, une stratégie de communication en bonne et due forme. On n'a pas senti ça jusqu'à présent.
Mais ce qui est maintenant, quand même bizarre, quand même des gens de compétences, d'expérience à la CENI. Hein.
Bon, je peux
c'est des gens que nous connaissons.
On connaît très bien.
Et on peut s'étonner qu'avec ces personnes-là, le travail soit comme ça sur le terrain.
Mais si on ne vous donne pas les moyens, c'est ça le problème.
Merci.
Secondo, oui, je voulais réagir par rapport à l'auditeur qui parlait d'inscription sur la liste électorale des étrangers. S'il en a la preuve, une fois qu'on affiche, parce qu'on doit afficher la liste,
oui.
Il faut noter ça et avec preuve à l'appui, on va procéder à une radiation.
C'est pour ça que les magistrats ont été nommés hier par la CENI.
S'il en est sûr et s'il a des éléments de preuve, une fois qu'on affiche,
il a le droit, le devoir même d'aller saisir les
cela fait partie du contentieux pré-électoral. Merci. Eric,
oui,
vous savez rapidement.
Oui, je pense que les auditeurs ont pleinement raison de s'accrocher au recensement électoral. Du moment où il y a certains qui n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur. C'est une alerte et il faut que la CENI tienne compte de cela. Parce que ce sont des voix des Togolais qui sont en train de se lever pour dire « Nous avons été victimes d'une situation malencontreuse en griffe, mais il faut que ça se corrige. »
Merci. Faute de temps, on ne peut pas desserrer les cartons aujourd'hui. On le retrouvera demain avec d'autres converses, d'autres sujets.
De petits
bon
cartons.
Appétit à nous tous.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Plume nègre. Plume nègre.
J'ai rêvé d'un pays nouveau. Un pays beau avec des routes, des gratte-ciels et des carniveaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort et juste. Un pays. Écoliers étudieront en cours en métro. Les emplois iront au boulot en hélico.
Les brevis iront à Bevi, Caporal Louis Homme. En featuring avec le Saint-Esprit. Un valast en musique. Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. Assez.
J'ai rêvé d'un pays nouveau. Un pays beau avec des gratte-ciels.